Europe 1. Heures, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement vôtre, l'émission qui, Stéphane ?
Vous raconte l'histoire sans se la raconter.
Oh oui. Top ! Je suis vif. Je suis incollable en histoire, sauf quand je n'ai pas mes fiches. J'ai deux teckels à poil dur avec qui je adore prendre des bains. Je suis.
Bah, pas moi, ils sont à poil court.
Oh non, Stéphane !
Ah oui, mais non, mais ils sont pas à poil long, excusez-moi. On est dans une émission.
À poil dur.
Et ben, ils sont pas à poil dur, vos teckels ?
Si, ils sont à poil dur, vous avez dit à poil long.
Mais non, j'ai dit à poil dur.
Non, vous avez dit à poil long.
J'ai entendu à poil dur, moi, j'ai entendu dur.
J'ai dit à poil dur, c'est écrit à poil long. J'ai corrigé, Stéphane, ce que j'avais écrit, puisque je me suis renseigné. C'est vous, vous commencez le quiz avec un point de retard, Stéphane. Mais oui. Mais voilà ce qui se passe.
Ok, je démissionne en direct.
Non, vous restez, vous partez avec un point en moins pour le quiz.
Écoutez, merci Mathieu, mais tout ça n'est pas sérieux quand même. Alors, sur le fond, on est sérieux, c'est une émission d'histoire. Ravi de vous retrouver pour deux heures d'histoire sérieuse. Oui, je sais, c'est difficile à croire à ce stade de l'émission où on rit avant tout.
Et pourtant, Stéphane, on réunit comme chaque après-midi trois personnages très différents, mais ayant un point commun. Aujourd'hui, on rigole les débuts parce qu'on n'est pas sûr de rigoler après, bien au contraire, on réunit de fins infiltrés qui se sont infiltrés là où l'horreur prenait malheureusement beaucoup de place.
Oui, à commencer par celui qui a laissé son nom à un prestigieux prix, récompensant le travail d'enquête des journalistes Albert Londres. Un journaliste qui a lui-même enquêté s'est infiltré pour voir de plus près ce qu'il voulait révéler, notamment chez les fous, vous verrez. Puis, lui aussi s'est infiltré. Il n'était pas journaliste, mais résistant. Le militaire polonais Witold Pilecki, devenu pendant la Seconde Guerre mondiale prisonnier volontaire du camp d'Auschwitz, pour créer une organisation de résistance clandestine à l'intérieur et rapporter sur tout ce qui se tramait entre ces murs. Quant à vous, Mathieu, retour à la légèreté, puisque vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'une humoriste et youtubeuse amatrice, elle aussi amatrice d'infiltration.
Oui, d'où son nom de scène, Stéphane, Marie s'infiltre, qui aurait pu être aussi Marie sans filtre, vous verrez pourquoi, aux alentours de 5h20.
Eux non plus n'ont pas de filtre, vous savez. Non. Avec nous, comme chaque jour, il y a celle qui nous entraîne dans l'intimité de l'histoire, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach.
Bonjour Clémentine.
Bonjour Clémentine. Bah oui, dites donc, j'attends que vous me saluez quand même.
Elle ne démarrait pas sans son bonjour, vous avez
bah
vu.
Bah ouais, hein, tout à fait.
Bonjour.
Alors bah
bonjour Clémentine.
Voilà, bonjour à tous. Écoutez, moi je vais vous parler d'une femme dont l'infiltration est un peu particulière parce qu'elle s'est faite au grand jour. Alors est-ce qu'on peut vraiment parler d'infiltration ? C'est une personnalité afro-américaine qui va fêter ses 80 ans cette année. Elle s'appelle Dorothy Cons Coggins et en 57, alors qu'elle avait 15 ans, elle a été une des premières afro-américaines à s'inscrire dans l'université ségrégationniste de Charlotte en Caroline du Nord. Donc là, évidemment, ça a été un événement majeur avec des photos qui ont fait le tour du monde. Elle arrive seule noire à se pointer dans cette université où évidemment, ça a été un dur moment à passer. Je vous raconterai ça.
Et puis avec David Castillo-Lopez, on remonte aux origines d'une invention qui fait notre bonheur aujourd'hui.
Oui, hier. Plus hier qu'aujourd'hui, mais encore aujourd'hui.
Encore aujourd'hui, vous savez pourquoi ? Je peux vous donner une information, vous allez nous parler de...
Oui, de Goldorak.
Eh bien, Goldorak a eu son timbre, plus qu'un timbre, une série philatélique, un bloc feuillet, qui est le best-seller de l'année 2021 pour La Poste.
Ah mais je ne savais pas ça, j'allais parler de beaucoup de choses, mais pas de cette chose-là.
Il y a eu une grande exposition dédiée à Goldorak il n'y a pas très longtemps à Paris.
Exactement. Mais ça non plus, vous ne le saviez pas, alors que vous faites le sujet sur Goldorak.
Si je savais, c'est terminé au mois d'octobre, il y a une... il y a une BD qui ressort, une BD française faite par des Français, qui reprend Goldorak 10 ans après la fin.
Ils ont eu le droit, les Français
Ils ont reçu les droits du créateur de la série lui-même.
Formidable. Avec nous, Olivier Pouls, si on remonte aux origines d'un mets, d'un ingrédient, d'une recette. Bref, on parle cuisine avec vous.
On parle d'un ingrédient qui est assez récent dans la cuisine française, mais qui est bien plus ancien, c'est le yuzu. Et je vous parle
une sorte de citron amélioré.
Oui, c'est entre le citron, la mandarine, le pamplemousse. C'est un agrume très intéressant.
Intéressant en pâtisserie notamment.
Qui a
le
eu une espèce de fulgurance de mode qu'on voit un petit peu moins maintenant.
Oui, mais moi je trouve à juste titre, dans les pâtisseries, ça apporte un côté acidulé sans être écrasant comme le citron. Enfin, Pour ma part, je conseille le yuzu.
Très bien, très bien.
Voilà,
bien.
C'était mon édito.
Oui, c'est ça, bien. Vrai,
vous êtes un homme engagé, je vois. Vous avez des combats.
J'ai des combats.
Il y a ceux qui se battent pour le patrimoine,
oui,
les éoliennes.
Oui, oui.
Et contre, surtout, il y a ceux qui se battent pour le yuzu.
Enfin, aux alentours de 5h moins le quart, c'est toujours le même sketch. Hein. Stéphane cherche en urgence ses neurones pour tenter de rivaliser avec Clémentine dans le quiz. Mais après inspection de son cerveau, le verdict tombe, toujours le même.
Rien ne fonctionne à bord.
Malgré tout, nous jouerons comme le veut la tradition à Burn to be Alive, où Stéphane démarra aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, avec un point en moins. Mais tout de suite, découvrons sans plus attendre notre premier personnage du jour.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Dans le journalisme, il est plus qu'une référence. Il est l'idéal à atteindre.
C'est moi.
Presque Stéphane. Mais,
non,
presque. Mais lui a donné son nom à la plus haute distinction dans la profession. Un homme intrépide, prêt à tout pour faire éclater la vérité au grand jour. Stéphane Bern nous raconte celui qui a eu le courage de pénétrer là où personne n'avait encore jamais osé s'aventurer, le journaliste infiltré Albert Londres.
Dans un asile pour femmes aliénées tenu par des nonnes, Albert Londres, 41 ans, découvre, horrifié, une pièce appelée la salle de pitié. À l'intérieur, l'innommable. Pourtant, le journaliste en fera le thème d'un de ses articles. Voilà ce que les lecteurs du journal Le Petit Parisien découvrent en mai 1925. Juché sur une estrade, 11 chaises étaient accrochées au mur. 11 femmes ficelées sur 11 chaises. Cela pleurait, cela hurlait, leurs bustes se balançaient de droite à gauche. On aurait dit ces poupées mécaniques que les ventriloques amènent sur la scène des music-halls. Les cheveux ne tenaient plus, les nez coulaient, la bave huilait les mentons. Des étangs se formaient sous les sièges. Dans quel musée préhistorique et animé étais-je tombé ? En entreprenant cette enquête sur les asiles et autres établissements psychiatriques, Albert Londres ne s'imaginait pas tomber nez à nez avec des êtres aussi déshumanisés. Je parle des fous, bien sûr, mais pas seulement. Dans ses 12 articles, Albert Londres accable aussi des médecins plus bourreaux que héros, plus geôliers qu'infirmiers. Cette vérité glaçante est la marque de fabrique du reporter. Albert Londres n'a jamais imaginé exercer un autre métier que celui de journaliste. Albert voit le jour en Auvergne, à Vichy, le 1er novembre 1884. Dans cette ville thermale qui a notamment accueilli la marquise de Sévigné ou Napoléon III, Albert Londres aurait pu suivre la voie de son père et devenir chaudronnier. Mais il n'en a cure et se jette dans le grand bain du journalisme en 1906. Direction Paris. L'avenir appartient aux hommes qui se lèvent tôt, alors Albert débute au matin, un quotidien tiré à près d'un million d'exemplaires. Sa carrière décolle véritablement en 1914. La Première Guerre mondiale éclate, lui est réformé. Son arme, c'est sa plume acérée. Son style tranche avec celui de ses confrères. C'est à lui qu'on doit notamment le récit poignant sur le bombardement de la cathédrale de Reims par les Allemands. Elle est debout, mais pantelante. Elle est ouverte. Il n'y a plus de porte. Nous pénétrons en retardant le pas. Nous sommes déjà au milieu de la grande nef quand nous nous apercevons avoir le chapeau sur la tête. L'instinct qui fait qu'on se découvre au seuil de toute église n'a pas parlé. Nous ne rentrions plus dans une église. À 30 ans, Albert vide sa passion, le journalisme. Reporter de guerre, il est envoyé aux quatre coins de la France, puis en Belgique. Il intègre rapidement de nouvelles rédactions comme le Petit Journal ou encore l'Excelsior. Pendant 10 ans, il éclaire de son talent les lecteurs en noircissant de son encre les pages des journaux. Visions orientales, dans la Russie des soviets, la Chine en folie. Ses articles sont des mines d'informations. Mais Albert Londres veut aller plus loin. Progressivement, ce fringant jeune homme à la barbe noire et à la mèche de cheveux rebelles s'intéresse à des sujets d'études méconnus, délicats, voire dangereux pour quiconque s'en approche de trop près. Parmi ces infiltrations qui ont valu à Albert Londres le surnom de prince des reporters, sa série d'articles sur le bagne de Guyane. Nous sommes en 1923. Albert Londres n'a pas encore 40 ans et débarque comme journaliste dans ce qu'on appelle Cayenne, un lieu où sont envoyés les délinquants pour y purger leur peine de travaux forcés. Ce qu'il y découvre lui glace le sang. Je n'avais encore jamais vu d'homme en cage par cinquantaine. Ils se préparaient pour leur nuit. Cela grouillait dans le local. De 5h du soir à 5h du matin, ils sont libres dans leur cage. Ces articles, publiés entre août et septembre 1923, bousculent les lecteurs et dérangent le pouvoir en place. Car face à ces conditions de détention insoutenables, Albert Londres n'atténue en rien ses propos, bien au contraire. L'injustice sociale, la corruption, l'inhumanité, rien ni personne n'est épargné. Son article du 24 août 1923 évoque par exemple cette cour des miracles où des malades sont entassés dans deux camps. 450 chiens dans le premier, 450 dans le second. À dire vrai, ce ne sont pas des chiens, ce sont des hommes. Mais ces hommes ne sont plus que des animaux galeux, morveux, pelés, anxieux et abandonnés. Manchots, unijambistes, hernieux, aveugles, tuberculeux, paralytiques, tout cela boue ensemble dans ces deux infernaux chaudrons de sorcières. En 1947, près de 25 ans après l'apparition de ces articles, le bagne est fermé définitivement. Albert Londres en a désormais la certitude. Sa mission est de se mettre au service des invisibles, ceux que l'on n'entend pas, qui sont censurés et qui pourtant souffrent. Il va ainsi réussir à suivre incognito le parcours de ces Françaises enrôlées vers l'Argentine pour devenir prostituées. Son reportage, Le chemin de Buenos Aires, est salué par la critique, conspué par les Argentins. Le reporter se distingue également par son enquête sur le Tour de France. Dans les forçats de la route, il obtient le scoop. Trois coureurs cyclistes déballent devant lui la cocaïne et d'autres produits qui leur permettent de tenir la cadence de ce tour infernal. Albert Londres, lui, carbure aux révélations choc. Son prochain sujet est l'un des tabous les plus ancrés dans la société française, la folie. Mais infiltrer un asile va s'avérer être particulièrement kafkaïen. Les directeurs de ces maisons d'aliénés sont tout sauf coopératifs. À chaque fois la même excuse. La loi de 1838 qui contient une clause et non des moindres, le secret professionnel. Autrement dit, les directeurs de ces asiles, une fois les fous placés chez eux, ont tous les droits sur eux, y compris celui de les couper du monde. Oh, un ministre accepte bien de l'aider. Je ferai quelque chose pour vous si vous faites quelque chose pour moi. Soumettez vos articles à la censure. Il est fou, aurait pu rétorquer Albert Londres. Jamais vaincu, le journaliste prend une décision radicale. Devenir fou à son tour pour espérer infiltrer cet univers si bien protégé. Il tente de se faire interner à l'infirmerie de la préfecture de police sur l'île de la Cité. Malheureusement, il fait chou blanc. Albert Londres fixe ensuite son dévolu sur Sainte-Anne, toujours à Paris. C'est alors le seul des 80 établissements de l'Hexagone avec un service ouvert. Chacun peut donc s'y présenter. Le reporter révèle dans l'un de ses articles son expérience dans la salle d'attente. Une femme qui vient visiter sa mère lui confie son petit garçon. Quand elle réapparaît, désemparée, elle lui demande « Vous venez aussi pour une parente ?» Il répond « Non, madame, je viens pour moi. » Elle m'arrache à l'enfant. « Je me sentis soudain dangereux pour la société », expliquera-t-il ensuite. Enfin, Albert Londres aurait-il réussi à convaincre une personne de sa folie ? Mais persuadera-t-il avec le même succès les médecins qui s'apprêtent à le recevoir en consultation ? Encore une fois, c'est un échec. Alors il change son fusil d'épaule et décide de tenter sa chance en province. Tour à tour dentiste, gardien interne, il parvient, quoique rarement, à franchir les portes de ces établissements. Et ce qu'il découvre dans ce tour de France des asiles est encore plus déroutant que le scoop des cyclistes dopés. Ici, ils sont plongés dans des bains glacés entre 4 et 6 heures d'affilée, enfermés dans une baignoire avec juste la tête hors de l'eau. Là, on remplace leur lit par de la paille en forme de cercueil, aussitôt mort, aussitôt enterré. Ces articles font office d'électrochoc auprès du public. Ce sont des coups de scalpel littéraires dans la France très lisse des années 20. De cette enquête prolifique, Albert Londres en tirera même un livre et une conclusion. Notre devoir n'est pas de nous débarrasser du fou, mais de débarrasser le fou de la folie. Si nous commencions. Albert Londres meurt en 1932 à l'âge de 47 ans dans l'incendie du paquebot qui le ramenait d'une enquête en Chine. Depuis 1933, le prix Albert Londres couronne chaque année les meilleurs grands reporters francophones. Seule exigence autre que le talent, avoir moins de 40 ans. Ça ne vous laisse donc plus que quelques mois pour candidater, je crois, Mathieu.
Mais je ne candidate même pas.
Mais allez-y, on y croit, nous.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler d'Albert Londres, nous avons le plaisir d'accueillir un autre journaliste qui lui consacre, lui, un livre. Bonjour Benoît Immermann.
Bonjour.
Bonjour Benoît Immermann. Vous avez été grand reporter pendant près de 40 ans. Vous avez publié l'an dernier la première biographie illustrée d'Albert Londres, intitulée Albert Londres, la plume et la plaie, aux éditions Paulsen. C'est une figure tutélaire pour tout journaliste qui se respecte. C'est un peu le saint patron de la profession, non ?
On dit le maître étalon, M-A-I-T-R-E. Oui, on se réfère beaucoup à ce personnage. Il n'est pas très connu à l'étranger, même si un certain nombre de ses livres sont traduits. Mais en France, il reste le monument, la référence. ses œuvres sont accessibles, parce que non seulement il écrivait dans les journaux, mais à la fin de chaque reportage, il en faisait un livre. Oui. Et ces livres sont accessibles encore aujourd'hui. Et tout journaliste qui rentre dans une école de journalisme commence par lire Albert Londres.
Votre livre est sous-titré d'ailleurs « La plume et la plaie », d'après une citation célèbre d'Albert Londres, qui enjoignait ses pères à porter la plume dans la plaie. Qu'est-ce qu'il entendait exactement par là ?
Et qu'il ne suffisait pas de regarder, de rendre compte, mais qu'il fallait appuyer là où ça faisait mal. Et effectivement, de dénoncer les choses. En cela, il avait un journalisme très particulier qui se différenciait du journaliste qu'on appelait Yankee, qui sépare l'information du commentaire. Lui, il s'impliquait dans l'enquête, il s'impliquait dans son reportage, et il dénonçait en particulier ce qu'on dit la veuve et l'orphelin, et donc les faibles.
Et c'était quoi pour lui, pour Albert Londres, les qualités essentielles d'un bon journaliste ?
Alors, si on visualise qui est Albert Londres, il ne répond pas au canon du journaliste en battle dress. Il a un gros embonpoint, il ne sait pas nager, il ne sait pas conduire une automobile, il n'a jamais pris un avion. Mais c'est un coureur de fond. Il se renseignait énormément avant de partir en une enquête. Il faisait une enquête par an, pas plus. Hein. Pour aller en Chine, il fallait un mois de bateau, un mois sur place, un mois de bateau pour rentrer, écrire son papier. Mais ses papiers étaient très documentés. Il avait énormément d'informations et il livrait tout ça à son lecteur avec beaucoup de soin et de précision.
Albert Londres a sillonné la planète, foulé tous les continents pour ses reportages. C'est incontestablement un pionnier de ce qu'on appelle aujourd'hui le grand reportage. À quel moment on commence à parler d'actualité étrangère dans nos journaux ?
Tout change avec la guerre 14-18. Les pays sont plutôt autocentrés et tout d'un coup on s'aperçoit que le monde existe puisque c'est un conflit international, que les soldats qui viennent de Bretagne ou des Ardennes vont se battre jusqu'en Crimée. Et donc la population, au sortir de la guerre, est avide de savoir ce qui se passe dans le monde entier. Donc on envoie des reporters dans le monde entier pour raconter ce qui se passe à la fois en Asie ou en Amérique du Sud.
Albert Londres se rend dans les bagnes de Cayenne et d'Afrique du Nord. Il s'infiltre dans les asiles d'aliénés. Il suit les prostituées françaises à Buenos Aires, on l'a dit. Combien de lecteurs suivent régulièrement ses aventures ? Pour resituer, c'est une plume très suivie à son époque.
À son époque, d'abord, il faut se rendre compte qu'il y a énormément de journaux en France. Rien qu'à Paris, il doit y avoir une vingtaine de quotidiens. Et les plus grands quotidiens auxquels participe Albert Londres, que ce soit Le Matin, Le Petit Parisien, Le Journal, etc., vont jusqu'à 1 million d'exemplaires. Et la signature d'Albert Londres est attractive. Quand Albert Londres fait une série de papiers, et c'est sur 20 ou 25 journaux de suite, et c'est l'équivalent de 2 pages du Monde, on va dire, tous les jours. Et les ventes augmentent de 20 000, 30 000, voire 50 000 exemplaires.
C'était une star, c'était un journaliste star.
Absolument, il est un élément moteur et vendeur des journaux auxquels il participe.
Comment on peut définir, au fond, le style d'Albert Londres ? Vous écrivez que ses reportages sont toujours très imagés. Bon, il faut dire, à l'époque, il y a pas la télé. Hein, donc,
Oui, tout à fait. Il crée des personnages, il crée des dialogues même, il met en scène. Et il ne se contente pas, encore une fois, de décrire. Il fait toute une sorte de feuilleton qu'il raconte aux lecteurs pour les amadouer ou les attirer ou les tenir par la main.
Il lui arrive de broder un peu pour illustrer son propos.
On peut le dire. En tout cas, son style évolue au fil des ans. Il est beaucoup plus maîtrisé sur la fin. Son plus grand reportage, pour moi, c'est le Juif errant, où il est, comme on dit aujourd'hui, embedded. il part de Whitechapel à Londres pour essayer de comprendre des Juifs qui vont jusqu'en Palestine et il accompagne ce flux à travers toute l'Europe et il va jusqu'en Palestine. Là, son style est totalement maîtrisé et on peut dire qu'il prend du recul par rapport à l'événement. Tout au début, il est de temps en temps un peu même croquignol. Son premier voyage en Chine, et il ose par exemple des jeux de mots un peu faciles. Quand il est au Congo, par exemple, il parle de la grande fonte des nègres. C'est pas très heureux comme mot. Mais encore une fois, son style évolue. Et il devient un modèle de ce type de journalisme.
Dans la biographie que vous lui consacrez, vous racontez qu'en 1925, quand Albert Londres propose une série d'articles sur les asiles d'aliénés, il est peu soutenu par sa rédaction en chef qui craint les contre-attaques des protagonistes qui seraient mis en cause. Des contre-attaques ou des pressions, il en subit tout au long de sa carrière, on imagine.
Oui, il fait 2 grands reportages épuisants en 23, c'est Cayenne et Biribi. Biribi en Afrique du Nord, les bagnes militaires. Il sera épuisé de ces deux reportages. On lui demande de faire des reportages sur les asiles d'aliénés. Et là, ça se passe en France. Donc les lobbies sont plus forts. Donc les connaissances entre les directeurs des hôpitaux et les éventuels patrons de son journal, évidemment, la liaison est beaucoup plus courte et les pressions plus fortes. Et donc, il souffre un peu de ce regard qu'on porte sur ce qu'il fait.
Je le disais dans mon récit, Albert Londres disparaît en mai 1932 dans l'incendie du paquebot qui doit le ramener en France. Et dans votre livre, vous rappelez que depuis, les spéculations vont bon train quant aux circonstances de sa mort. Est-ce qu'à votre avis, on aurait voulu le réduire au silence pour ou quelles hypothèses ont été
mises ? Il y a un grand point d'interrogation. C'est vrai qu'il est parti en Chine pour une enquête dont il n'a pas révélé la teneur. C'était sans doute une enquête sur la drogue, sur le trafic de drogue qui se passait entre Marseille et la Chine. Donc effectivement, on a spéculé sur cette mort. Enfin, si on avait voulu tuer Albert Londres, l'arme du crime est un peu compliquée. Oui. Mettre un incendie à un bateau, il y a eu énormément de survivants. Ça se passe à 8 miles des côtes. Un poignard ou un fusil eût été plus efficace sans doute pour le supprimer.
Un an après sa mort, la fille d'Albert Londres, qui a créé le prix qui porte encore aujourd'hui son nom et qui récompense chaque année les meilleurs grands reporters francophones, ça représente quoi pour un journaliste de se voir décerner ce prestigieux prix Albert Londres ? C'est la consécration ultime ?
Oui, absolument. En France, en tout cas, c'est les Césars pour le cinéma, c'est le Goncourt pour la littérature. D'autant qu'il y a cet additif qui est intéressant, c'est qu'il faut avoir moins de 40 ans. Donc c'est la prime à la jeunesse, c'est la prime à l'audace, c'est la prime à l'inventivité, etc. Donc je trouve ça très beau. C'est vrai pour la presse écrite, puisqu'il y a le prix Albert Londres de la presse écrite, mais également pour l'audiovisuel et également pour les livres. Et effectivement, c'est une légion d'honneur qui vaut plus que ça.
Mais quel parallèle on peut faire entre le journalisme d'investigation du temps d'Albert Londres et celui d'aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que vous pensez que ça a changé ou...
Oui, ça a changé dans la forme et sur le fond, c'est toujours la même chose. Je veux dire, les enquêtes ont toujours lieu. C'est un peu plus compliqué aujourd'hui. Il y a des coalitions, on va dire, de journalistes européens ou mondiaux qui travaillent sur des sujets. On a cité les Panama Papers ou les Pentagon Papers. C'est des enquêtes de fond qu'aurait apprécié Albert Londres. C'est sûr que ça n'a pas vraiment changé sur le fond. Ce qui change, c'est que les médias sont toujours tenus par les puissants. Mais c'était vrai déjà du temps d'Albert Londres. Oui. C'était Zabarov qui était le propriétaire d'Excelsior, le petit personnage en loden vert qu'on voit dans l'oreille cassée de Tintin. Effectivement, c'était un marchand d'armes. Mais la capacité de Londres, quand il n'était pas d'accord, c'est qu'il traversait la rue, il allait chez le concurrent. C'était un peu plus compliqué aujourd'hui.
Merci en tout cas, Benoît Hammermann. Je rappelle que votre livre Albert Londres, La plume et la plaie, est disponible aux éditions Paulsen. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Ici Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Tous les jours, dès 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qu'on n'apprend pas forcément sur les bancs de l'école ni dans les livres. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, c'est à l'école que l'on va justement, dans un lycée même, le Harding University High School de Charlotte, aux États-Unis, où l'une des premières élèves noires y a été admise en pleine ségrégation. Son nom, Dorothy Counts Scoggins.
Eh bien oui, parce qu'en 1954, aux États-Unis, la Cour suprême a jugé inconstitutionnelle la ségrégation raciale dans les écoles. Alors, pour les États ségrégationnistes, que faire ? Il y a ceux qui vont s'opposer violemment à cette loi, qui feront de la résistance le plus longtemps possible, l'Alabama et la Virginie, par exemple. Mais en Caroline du Nord, on mise sur la modération et on adopte le plan Pearsall qui vise à intégrer progressivement des Noirs américains dans le système scolaire public, jusqu'alors réservé aux Blancs. Alors en 1957, une quarantaine d'étudiants noirs s'inscrivent dans des universités qui jusque-là étaient réservées aux Blancs. Et dans le district de Charlotte, en Caroline du Nord, 4 étudiants noirs se sont inscrits, dont Dorothy Counts Scoggins, qui est née le 25 mars 1942. C'est donc une adolescente noire de 15 ans. Précisons d'emblée qu'elle appartient à l'élite de la communauté noire américaine. Son père est professeur de théologie et de philosophie à l'université. Elle a donc des parents qui sont engagés dans cette cause de la lutte contre la ségrégation.
Donc c'est un acte militant, vous voulez dire ?
C'est un acte militant, absolument. Le jour venu, 4 septembre 1957, rentrée scolaire, elle met une belle robe à carreaux bleus avec un grand ruban, une robe que lui a faite sa grand-mère, donc on s'en dimanche pour rentrer à l'université. Son père l'emmène en voiture sur le campus, accompagné d'un autre ami prof, et quand ils arrivent sur le campus, la rue a été barricadée. C'est mauvais signe. Mmh. Ensuite, on voit toute une foule qui les attend. Monsieur Kantz se gare et là, comme il pressent ce qui va se passer, il dit à sa fille, surtout, garde la tête haute. Dorothy sort de la voiture. Elle n'a pas encore mis le pied dans le lycée que déjà un attroupement se forme autour d'elle. Une foule hostile composée d'élèves, d'étudiants, de parents d'élèves et même d'écoliers en assez bas âge. Hein, et on se met à l'insulter. On lui crache dessus, dans le dos, sur son passage, copieusement. On lui jette des ordures. On va même lui jeter des pierres qui ne l'atteindront pas, qui arriveront à ses pieds. Et on l'insulte, bien sûr, retourne en Afrique, regrimpe dans ton arbre, enfin des vociférations racistes. Il y a un photographe de presse qui est présent, Douglas Martin. Il immortalise la scène et sa photo va faire le tour du monde et remportera le prix World Press Photo de l'année 57 avec une photo de Dorothy se faisant harceler par la foule et se premier jour de lycée. Ces photos sont terribles. On la voit, mais digne et en même temps austère, si vous voulez, douloureuse, bien sûr. Derrière elle, tout le monde rit, tout le monde se marre. Elle a dû avoir un sentiment atroce d'injustice, de solitude, d'humiliation, mais elle reste stoïque, elle reste digne tout du long. Bon, c'est pas fini, ça fait que commencer. Son casier est saccagé, ses parents reçoivent des menaces téléphoniques. Il y a une élève blanche dans sa classe qui lui fait un peu bon accueil, mais sous la pression générale, c'est vraiment le phénomène du bouc émissaire. Elle cesse complètement de lui adresser la parole. Avec le corps enseignant, ça n'est pas mieux. Elle a témoigné, Dorothy. Les enseignants m'ont ignorée comme si je n'étais pas dans la salle de classe. Même quand je levais la main, c'est comme si je n'étais pas là. À la cafétéria, un groupe de garçons la cerne et crache dans son assiette. Alors qu'elle est devant son casier, elle évoque de justesse un objet tranchant qui a failli la blesser à la tête. Et enfin, la voiture de son frère, qui vient la chercher pour le déjeuner, vu qu'à la cantine, on crache dans son assiette, reçoit le troisième jour, reçoit une pierre dans le pare-brise arrière. Donc ça a été quand même quatre jours d'une épreuve du feu extrêmement humiliante et douloureuse. Donc au bout d'un moment, la police explique aux parents de Dorothy qu'ils ne peuvent pas assurer sa sécurité dans l'établissement, qu'elle ne peut pas rester. Donc ses parents la retirent de Harding High School et l'inscrivent dans une autre université à Philadelphie. Donc après cette tentative a vraiment beaucoup fait parler d'elle. Finalement, ça a été un mal pour un bien parce que cette communauté blanche raciste a été stigmatisée et dans le monde entier. Elle n'a jamais cessé de se battre contre la ségrégation. Elle a eu une très longue carrière d'enseignante et surtout d'enseignante dans les petites classes. Et même ces dernières années encore, elle était très impliquée dans la question de la ségrégation sociale dans les écoles. Alors, comme les temps ont considérablement changé, en 2008, son lycée pendant 4 jours à Charlotte, lui a décerné un diplôme honorifique. En 2010, elle a même reçu des excuses publiques de l'un de ses tourmenteurs de 1957. Et enfin, la même année, 2010, le lycée Harding a baptisé sa bibliothèque Dorothy Kantz Coggins, ce qui est un honneur très rarement accordé de son vivant à une personnalité. Donc, vous voyez, cette Dorothy, elle rejoint cette galerie de portraits de femmes extraordinaires, à l'instar des Rosa Parks. Mais... Il faut regarder les photos, la dignité de cette femme.
Et face à la bêtise des gens qui l'entourent.
C'est extrêmement frappant. Merci. Donc, vraiment, infiltration publique, mais réussie et significative.
Échec sur le moment, mais c'est vrai que ça a eu une incidence bénéfique.
Oui, absolument.
Merci beaucoup, Clémentine.
Et surtout, Clémentine, je sais que Stéphane va démarrer le quiz avec un point en moins, mais vous devriez commencer le quiz avec un point en plus, car vous avez rendu l'antenne 6 minutes après le début de votre chronique. C'est la première fois, je crois, de l'histoire de cette émission que vous tenez les 6 minutes pile comme ça, Stéphane. Vous pensez qu'on lui donne un point ou pas ?
Je regarde pas.
Non, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour Stéphane qui menace de partir. Le quiz.
Europe 1, historiquement vôtre.
Vous êtes nombreux à vous être inquiétés dernièrement des performances, disons, en demi-teinte de Clémentine Portier-Kaltenbach dans le quiz. Avec la bonté qu'on lui connaît, Stéphane a tenu à répondre personnellement à vos appels au Standard d'Europe 1 pour rassurer ses fans.
Oui, on est en train de la restaurer en ce moment. Oui.
Jouons à Born to be Alive avec une version restaurée de Clémentine Portier-Kaltenbach qui démarre ce quiz, Stéphane, je vous le rappelle, avec un point de plus que vous.
Justement, un point de plus.
Vous avez été rétrogradé suite à vos propos en début d'émission me concernant. Question numéro 1. Pour vous, Stéphane, commençons ce quiz chez la perfide Albion. La reine Victoria, dont le règne a duré plus de 63 ans, n'avait pas l'anoblissement facile. Pourtant, elle a anobli Battling Bruno, parce qu'il était un boxeur ayant beaucoup de succès auprès du public féminin. Vrai ou faux ?
Battling Bruno.
Battling Bruno.
Sir Battling Bruno.
Ouais, elle en a anobli quelques-uns, hein, des ministres, des... Est-ce qu'elle a anobli Battling Bruno ?
Bah, vous savez pas ça, Stéphane ?
Non, je sais pas ça. Vous savez...
Ma question porte sur le fait qu'elle a anobli Battling Bruno parce qu'il était boxeur et qu'il avait beaucoup de succès auprès du public féminin. Ça, c'est ma question.
Non, je crois pas.
Non,
ne pensez pas.
Non, j'y crois pas.
On paraît trop gros. Ouais. On peut quand même la reine Victoria à un certain instant.
Ça va être vrai, vous allez voir.
Non, c'est une bonne réponse. Enfin, quand même. La reine Victoria anoblir un Battling Bruno boxeur. Mais non. Mais pourtant, elle anoblit ce Battling Bruno. Il n'était pas boxeur.
Pour d'autres raisons, il n'était pas boxeur.
C'était un ours. Et les combats entre de vrais boxeurs, des humains et des ours, ont débuté en Europe au milieu du 19e siècle. Puis aux États-Unis, le sport était extrêmement cruel, car les ours étaient semi-apprivoisés. On leur arrachait les dents, ils avaient une muselière.
Non,
ils portaient des gants. On leur coupait aussi quelques tendons aux jambes. Malgré cela, les ours gagnaient parfois. Mais Battling Joe a été anobli et empaillé à sa mort, car il jouissait d'une belle popularité en remportant beaucoup de combats, figurez-vous.
La cruauté envers les animaux, franchement,
n'a pas de limite. Hein. Heureusement, vous êtes là.
Les combats de coqs aussi, il faut arrêter.
Ah, en Thaïlande, oui, c'est vrai. Bah, ça fait partie des traditions.
En Amérique, encore. Il y en a eu, mais bien sûr.
Quel scandale. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Les films de cinéma qui ont été tournés jusqu'en 1930, c'est-à-dire une grande partie du cinéma muet, sont pour la plupart détruits. Mais pourquoi ? C'est ma question. Est-ce que c'est parce que pour les visionner, on a ensuite utilisé des appareils pour films parlants et ces derniers endommageaient les films muets ? Vrai ou faux ?
En quoi les films parlants, puisqu'à l'époque on était incapable d'enregistrer le son en même temps qu'on filmait, il y avait une espèce de post-production où on diffusait le son. Le son ne figure en rien sur la celluloïde. Non, je pense que ce sont des supports qui ont périclité.
Pourquoi ?
Parce que c'était de la celluloïde de mauvaise qualité. Ils se sont abîmés avec le temps. Je ne pense pas que ça ait un rapport avec le cinéma parlant, parce que les deux choses étaient séparées. Je réponds non à cette question. C'est mon intuition et je n'y connais rien.
Vous avez gagné !
C'est plus que votre intuition, c'est la qualité de votre raisonnement qui vous a guidé une fois de plus vers la bonne réponse, Clémentine. Oui ?
Merci.
En revanche, vous êtes trompée sur la raison.
Ah oui ?
80% des films tournés de 1894 à 1930 sont détruits parce que commercialement leur valeur n'était pas considérée comme rentable. Du coup, ils ont tout simplement été détruits volontairement.
Vous aimez
le gâchis en termes de patrimoine, Stéphane. Patrimoine.
Horrible. Faites quelque chose.
Mais toujours penser à la rentabilité. C'est ça qui est.
Mais oui, c'est ça qui est horrible.
Vous êtes de... ce monde.
Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Adam Reiner était autrichien. On lui a refusé en 1917 et en 1918.
Reiner, plutôt.
Adam Reiner était autrichien. On lui a refusé en 1917 et en 1918 d'intégrer l'armée de terre austro-hongroise car c'était un géant. Résultat, il n'a pas combattu, mais il a quand même rendu visite aux troupes avec une femme à barbe et un homme tronc pour remonter le moral de l'armée. Vrai ou faux ? Vous connaissez Adam Reiner ?
Je ne connais pas, mais ça pourrait être une belle histoire.
Ça pourrait.
Ça pourrait.
Oui.
Qu'est-ce
que vous répondez ?
Ça sent le coup foireux. Ça doit être un autre, ça doit être un inventeur de quelque chose, ça doit être un général scandaleux.
Vous avez gagné !
Bravo Stéphane, un partout dans le quiz. C'est faux, il a été refusé car il était de petite taille, il faisait 1m18. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un dérèglement hormonal a fait ensuite qu'il est devenu le seul être humain ayant été à la fois nain, puis géant. Il est mort à 51 ans, il mesurait 2m34.
Incroyable histoire.
Ça,
Adam
c'est du gros,
Reiner.
Gros dérèglement hormonal.
Oui.
Question numéro 4 pour vous, Clémentine.
Il a consommé ce gars-là, oui.
Édith Piaf La môme, comme l'a surnommé Louis Le Play, le patron du cabaret Le Gerniz, qui a lancé. Je vous parle d'Edith Piaf. Malgré un physique évident, on peut dire que Piaf a fait tourner les têtes. Mais, et c'est la question qui est vraiment intéressante sur Edith Piaf, c'est a-t-elle vécu suffisamment longtemps pour entendre cette chanson ?
Ah, qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. Laï, 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 laï.
Donc elle est morte en 64, hein, Edith Piaf.
Puisque ça fait partie de la... Je ne peux pas vous guider. Heureusement, je vous laisse avec vos supputations.
Je me suis trompée la dernière fois sur leur date. Je m'étais trompée sur leur date de mort. Bon. Et alors, est-ce que Enrico Macias était déjà, faisait déjà carrière en France ? Ça me paraît quand même... Oh, je pense que la chanson est un tout petit peu, je dirais un tout petit peu postérieure. Est-ce qu'il aurait écrit ça ?
On imagine bien Edith Piaf se dandiner là-dessus.
Non, je pense que Edith Piaf n'a pas, malheureusement, n'a pas connu le bonheur de, d'écouter cette chanson d'Enrico Macias.
Vous avez gagné !
C'est une victoire de Clémentine Portier-Kettenbach.
Mais de façon tout à fait injuste à cause du point que vous lui avez attribué. Parce que elle a donné deux bonnes réponses, moi aussi.
Oui, c'est vrai.
Et donc,
oui.
Si vous étiez juste
de faire la cinquième.
Attendez, il faut que je voie avec le DRH de l'Europe 1. Je suis en ligne avec... Non, oui, et donc... Oui, il me signale que vous êtes hiérarchiquement au-dessus de moi, donc vous qui décidez. C'est effectivement égalité. Bravo Stéphane, égalité dans le quiz. Je signale, pour ceux que ça intéresse, que Edith Piaf est décédée en 1963, à l'âge de 47 ans.
Je me trompe
et
toujours d'un an.
Les filles de mon pays, d'Enrico Macias, est sortie en 1965. Question numéro 5, c'est la question de rapidité. Elle va vous départager. Attention, tu es un petit peu borderline. L'histoire, c'est aussi la violence, mettons en préambule. Des drames, des guerres, des attentats, du terrorisme. On garde en mémoire ceux qui ont réussi, mais rarement ceux qui ont échoué, les terroristes. En 2011, une femme djihadiste voulait faire une attaque sur la place Rouge, en Russie. Mais que s'est-il passé ? Trois propositions. 1. Elle s'est trompée d'heure à cause des 11 fuseaux horaires de la Russie. 2. La place Rouge était vide, pourtant son guide avait un joli nom. Ou 3. Elle a reçu un SMS de bonne année, mais son téléphone était relié à sa ceinture d'explosifs.
3.
Désolé Stéphane, c'est Clémentine qui a été encore plus rapide. Et oui, un texto reçu alors que tout était en place a changé le cours de l'histoire. Heureusement, les services de sécurité russes ont constaté que ce texto a déclenché les charges explosives de celle qui fut surnommée la Veuve Noire. Elle appartenait à la rébellion islamiste du Caucase du Nord. Sur le texto, il était écrit « Bonne année ». Eh oui, quoi ça ? Petit texto, il fallait se mettre en mode avion.
Oh mais c'est horrible.
Qu'est-ce
que vous nous faites faire,
c'est
rigoler
horrible.
Sur des trucs pareils.
Mais dans le quiz, tout se côtoie. Vous
n'avez pas honte, hein, rien ne vous arrête.
Mais c'est même à ça qu'on me reconnaît.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre continue sur Europe 1 avec l'insatiable boulimique d'histoire. Vous n'êtes jamais rassasié, hein, Mathieu.
Jamais, je suis très très gourmand.
Tant mieux. Une deuxième heure d'Historiquement Vôtre se profile. Aujourd'hui, on réunit de fins infiltrés. Après Albert Londres, votre modèle dans le journalisme, je vous raconte Mathieu Witold Pilecki, un militaire qui s'est volontairement fait déporter dans le camp d'Auschwitz pour créer une organisation de résistance clandestine à l'intérieur et rapporter aussi évidemment l'horreur qui se tramait entre ces murs. Puis retour à un peu de légèreté, hein, puisque quant à vous Mathieu, vous nous prouverez que l'infiltration a encore de beaux jours devant elle avec une jeune humoriste qui en a fait son modus operandi.
Oui, et en même temps son nom de scène. Vous avez déjà entendu parler de Marie s'infiltre. Petit indice, David, c'est quelqu'un qui a encore plus d'abonnés que vous sur YouTube.
Salope !
Non, ne soyez pas jaloux, vous verrez, elle est super. Bah, vous aussi, hein, mais elle...
Sans oublier justement nos chroniqueurs, justement David Castel-Lopez, qui nous raconte les origines d'un phénomène, hein, c'est Goldorak.
C'est Goldorak, vraiment. Alors moi, je n'ai pas beaucoup connu Goldorak.
Bah non, j'allais dire, on n'a pas connu Goldorak.
C'est la génération d'avant. Mais c'est quand même le premier manga à avoir été importé en France. Et ça a été un des plus gros succès.
Ah, moi, c'est toute ma jeunesse se résume à deux choses, des Playmobil et Goldorak.
Oui. D'ailleurs, s'ils avaient fait des Playmobil Goldorak, ça aurait cartonné.
Et vous aussi, vous restez dans l'exotique, Olivier Pouls.
Oui, c'est vrai, parce que Goldorak a des origines nippones, et le yuzu, qui est le petit fruit dont je vais vous parler, est un des emblèmes.
Ni bon ni mauvais,
c'est ça.
Mais ça vient d'où le yuzu ? C'est Japon
Le Japon a énormément contribué à son développement et à sa renommée, si on peut dire, mais c'est pas là-bas que ça poussait de manière naturelle au tout départ.
Enfin, nous verrons si sa connaissance de Goldorak lui sert à quelque chose ou si, comme d'habitude, j'écraserai David Castello-Lopez comme un yuzu dans la lutte finale. Ce quiz fratricide qui donne des frissons de plaisir au présentateur radio Stéphane Bern. Mais pour l'heure, découvrons notre deuxième personnage du jour.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Il y a ceux qui ont voulu voir Vesoul et qui ont vu Vesoul, ceux qui ont voulu voir Paris et qui ont vu Paris. Lui, plus tristement, a voulu voir Auschwitz et son camp d'extermination pendant la Seconde Guerre. Il l'a vu en se faisant volontairement déporter, une infiltration héroïque qui, plus de 80 ans après, reste méconnue du grand public. Stéphane Bern nous raconte l'infiltré Witold Pilecki.
Nous sommes à l'automne 1940 à Auschwitz. Witold Pilecki assiste à une séance de torture ignoble des SS sur les prisonniers polonais. Dans le froid, les pieds nus, ils doivent obéir aux ordres de chevaillons nazis. Hüpfen, sauter, rollen, rouler, tanzen, danser, kniebeugen, plier les genoux. À chaque faux pas, les SS n'hésitent pas à abattre les prisonniers. Selon Witold Pilecki, cela durera jusqu'au soir. Beaucoup de morts furent traînés et les agonisants moururent rapidement à l'hôpital. Pendant 2 ans et 7 mois, l'espion polonais Witold Pilecki a été propulsé au cœur de l'atrocité humaine et de son plein gré. Quand la guerre éclate, Pilecki est sous-lieutenant. Durant l'été 1940, avec l'accord de ses supérieurs, il décide d'intégrer volontairement une rafle et d'infiltrer Auschwitz. Il laisse derrière lui sa femme, Maria, et ses 2 enfants, Andrzej et Sofia. Mais à cette époque, Witold Pilecki est loin de se douter de l'horreur qui l'attend. Dès le début du voyage, dans des wagons sans boisson ni nourriture, il goûte à la violence des SS. Durant ces journées, plusieurs d'entre nous ont pu faire connaissance avec un bâton en caoutchouc avec lequel les Allemands frappaient sur les têtes. C'est le début d'une longue infiltration pour Witold Pilecki, dont le nom d'emprunt est désormais Thomas Serafinski, matricule 4859. C'est le moment où j'ai eu l'impression de quitter la Terre, de rentrer dans un autre monde. Ils essayaient de nous briser mentalement. Cheveux et poils rasés, Witold comprend très vite que pour survivre, il va devoir avant tout obéir et faire profil bas. Il porte le triangle rouge de prisonnier politique. Durant son infiltration, il dormira dans différents blocs et effectuera plusieurs métiers, entre guillemets. Transporteur de gravier, de colis, menuisier. Mais les journées, elles, seront inlassablement identiques. Réveil à 5h20 en hiver, 4h20 en été. Tout est fait au pas de course. Le lever, le passage aux latrines, la douche sommaire à la pompe avec 200 autres prisonniers. Et surtout, les séances de torture et les assassinats. Dans son rapport, les exemples pleuvent. Un jour, Witold Pilecki observe impuissant un jeu macabre. 3 SS font enterrer vivant un prisonnier à la verticale, tête dans le sable. Les sadiques, montre en main, comptent combien de temps les jambes de la victime s'agitent hors du sol. Plus tard, à la fin de l'automne 42, il apprend que des expérimentations médicales sont réalisées par des médecins et des étudiants allemands sur les juifs. Les organes sexuels des 2 sexes étaient irradiés dans le but de supprimer les fonctions reproductives, expliquera-t-il. Face à ce déchaînement de haine, l'espion polonais est encore plus déterminé à mener à bien son projet secret. Créer un réseau de résistance au sein même du camp de la mort. Sa mission, il la décrit ainsi. Avoir plus de nourriture, des vêtements supplémentaires, informer le monde et obtenir des nouvelles de l'extérieur. Et objectif ultime, préparer nos propres unités à prendre le contrôle du camp. Sa méthode est simple, constituer un premier groupe de 5 prisonniers résistants qui ne se connaissent pas. Moins ils auront de liens, plus le réseau aura de chances de ne pas être démasqué. Et ça marche. Il enrôle même certains capots allemands. Ainsi, un capot, surnommé Maman, les aide dans les cuisines. Un papa est en sous-marin à l'hôpital, ou encore un certain Johnny se joint à ce mouvement. L'un donne davantage de soupe, l'autre permet aux prisonniers de travailler dans un atelier à l'abri du froid. Un autre aide encore les résistants à communiquer avec l'extérieur. L'espion polonais crée ainsi la ZOV, l'organisation militaire unie. Les groupes de 5 se multiplient et la solidarité se propage dans le camp. Witold, alias Thomas, étend son réseau comme une araignée tisse sa toile. L'année 42, monstrueuse pour les exécutions, redonne pourtant du courage aux prisonniers, car la résistance progresse. Witold Pilecki et ses hommes contre-attaquent. Ils créent une épidémie au sein même du camp, mais une épidémie ciblée. C'est alors que nous avons commencé, dans le laboratoire de l'hôpital, à faire un élevage de poux porteurs de typhus.
puis nous avons lâché sur les manteaux des SS. Nos petits poux en élevage faisaient leur travail. Les SS subirent de plus en plus de pertes. A l'inverse, le réseau de résistance sauve la vie de plusieurs hommes, notamment en août 1942. Des voitures de SS encerclent alors le bloc 20 où des prisonniers luttent contre le typhus. Ils sont tous emmenés dans les chambres à gaz, tous sauf quelques-uns. Les infirmiers résistants leur ont donné des blouses et des pantalons blancs. Ils se font ainsi passer pour des gens du corps médical et sont épargnés d'une mort imminente. Pour cultiver le peu d'espoir qu'il reste, Pilecki n'oublie pas l'importance de la religion. Un prêtre intègre l'organisation et devient l'aumônier officiel de cette résistance. Au final, les compagnons de Witold infiltrent tous les commandos sauf un, la Funkstelle, la station radio des SS. Peu importe. Pilecki parvient à sortir des lampes et des pièces détachées. Ils fabriquent leur propre radio émettrice. Ils informent leurs contacts à l'extérieur des conditions de détention des prisonniers, le nombre d'arrivées, de morts. Ces précieuses données sont ensuite relayées dans tout le pays par des radios clandestines. Mais plus les mois avancent et plus Witold Pilecki comprend que les alliés ne sont pas prêts à venir libérer le camp. Nombre de ses compagnons sont morts ou ont été transférés. Alors il décide avec deux autres prisonniers de s'évader. Et ça se fera par l'atelier de boulangerie à l'extérieur du camp. Witold Pilecki s'y fait embaucher. Le soir de Pâques, dans la nuit du 26 au 27 avril 1943, alors que les SS se sont un peu éloignés, les trois compères parviennent à pousser l'immense porte métallique qui les sépare de la liberté. Un vent frais caressa nos visages en feu. Les étoiles brillaient dans le ciel comme autant de clins d'œil. D'un bond, nous avons sauté l'un après l'autre dans l'obscurité. Nous sommes mis à courir le plus rapidement possible. Les SS ont tiré. Nous courions. Nous fendions l'air de nos bras et de nos jambes. Nous eûmes de la chance de ne pas être touchés. Après 947 jours, Witold Pilecki est sorti. Malheureusement, arrêté et condamné pour espionnage par les communistes, il est exécuté clandestinement 5 ans plus tard, en 1948. Il avait 47 ans.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Witold Pilecki, nous sommes avec le réalisateur qui raconte son incroyable infiltration dans un passionnant documentaire. Bonjour Ted Anspach.
Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Ted Anspach. Vous livrez avec Maya Naïs Yataghen un documentaire indispensable sur ce héros oublié de la Seconde Guerre mondiale. Comment vous avez redécouvert l'histoire de Witold Pilecki?
J'ai envie de vous dire quasiment par hasard, Stéphane, on est tombé sur un article de presse avec ma co-réalisatrice Maya Naïs Yataghen, qui nous a énormément marqué. C'était vraiment un petit paragraphe, mais nous, on a pris cette histoire en pleine face en se disant mais comment se fait-il qu'on ne la connaisse pas? Comment se fait-il que ça n'est pas enseigné dans les écoles? Ce qui est fascinant avec l'histoire de Witold Pilecki, c'est que, au fond, au moment les plus noirs de l'histoire de l'humanité, il y a encore des hommes debout, il y a encore des hommes qui se lèvent, qui se battent et qui apportent de l'espoir. Et je trouve qu'elle est pleine de lumière. Et en ce moment, en particulier avec ce que nous vivons avec cette pandémie, ce sont des histoires, je crois, assez indispensables.
Le film se conclut sur la réalité suivante. Malgré son internement volontaire et ses actes héroïques, le nom de Witold Pilecki a été effacé quasiment complètement des mémoires. Qu'est-ce qui se passe en Pologne au sortir de la guerre?
Donc, ce qui se passe, c'est que évidemment, l'invasion soviétique, un régime communiste qui se met en place, et Witold Pilecki entre en résistance, cette fois-ci contre les communistes. C'est un patriote, c'est un démocrate. Il décide donc de se battre contre le nouveau régime. Et à partir du moment où les communistes mettent la main sur lui, il est évidemment jugé et ensuite abattu. Et à partir de là, ils ont tout mis en place pour effacer sa mémoire. Parce que détruire l'image de Pilecki, c'est détruire en fait le patriotisme, oui, le nationalisme polonais.
Du côté des alliés non plus, on n'a pas érigé en héros la figure de Witold Pilecki après la guerre, alors qu'il avait délivré des informations capitales sur la réalité des camps. Pour quelles raisons ? L'honoré s'était avoué que les alliés savaient ce qui se passait dans les camps et qu'ils n'ont pas agi, c'est peut-être ça aussi.
Exactement, mais c'est tout à fait l'ironie de l'histoire, Stéphane. C'est que d'un côté, les communistes utilisent ses rapports pour prouver au fond sa collaboration avec l'Ouest. Et du côté de l'Occident, les rapports évidemment sont parvenus à Londres, hein, parce qu'il a quand même réussi cet exploit à faire sortir des infos d'Auschwitz et de les envoyer à Londres, et on n'en tient pas compte. Alors, les historiens s'empoignent un peu sur le sujet, certains disent il n'a pas été cru, d'autres disent, bon, de toute façon c'était un faisceau d'indices parmi d'autres, il n'y avait pas de certitude, et de toute façon les alliés n'auraient pas pu intervenir, voilà, parce qu'on ne pouvait pas techniquement bombarder Auschwitz. Donc finalement ça a dérangé tout le monde, et on les a mis sous cloche.
Mais la figure de Witold Pilecki a finalement fini par être réhabilitée dans les années 90. Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui en Pologne ? Est-ce qu'il y a des enjeux de mémoire autour de sa figure et de son geste héroïque ?
Alors il y a même une guerre de mémoire autour de Witold Pilecki. Mmh. C'est-à-dire qu'à la fois il incarne pour les pro-européens, pour les démocrates, la figure du patriote polonais qui a donné sa vie pour la liberté et la démocratie dans son pays. Et du côté des ultra-conservateurs de l'extrême droite, hein, qui est actuellement au pouvoir en Pologne, Pilecki, évidemment, est un formidable alibi. Se servir de Pilecki aujourd'hui, c'est dire, vous voyez, nous étions déjà contre les nazis, donc on ne peut pas nous taxer aujourd'hui d'être d'extrême droite, parce que par nature, les Polonais ne peuvent pas être d'extrême droite. C'est-à-dire complètement faux, parce que quand on voit ce qu'ils font sur les zones LGBT free, on dit des zones sans LGBT, donc moi j'appelle ça plutôt de l'éradication, je suis très inquiet, évidemment.
Votre film, il contient des extraits du rapport Pilecki, dans lequel Witold Pilecki témoigne des atrocités du camp. Il écrit « Dire ce que nous ressentions permettra de mieux comprendre ce qui s'est passé ». C'est une source donc essentielle pour la mémoire de la Shoah tout entière.
Oui, tout à fait. La spécificité des rapports de Pilecki, c'est d'abord qu'ils sont extrêmement détaillés. Mmh. Ensuite, c'est le seul qui a réellement infiltré le camp. Et ensuite, ça a été un des premiers à alerter sur la Shoah, en sachant que lui était détenu dans une partie d'Auschwitz qui s'appelle le Sturmlager. Donc, évidemment, il n'était pas à Birkenau, il était pas vraiment... Tout ça se mettait en place, mais il a été témoin en fait des premiers actes des Allemands qui préparaient la solution finale.
Alors, le documentaire contient également des archives audiovisuelles, des témoignages d'anciens déportés aujourd'hui disparus. Je vous propose d'écouter un extrait d'Infiltré à Auschwitz.
Le chef du camp, Fritsch, a fait son allocution. Il nous a dit « Vous êtes dans un camp de concentration, à discipline stricte. Aucun d'entre vous n'en sortira vivant. Ceux qui sont juifs, vous avez le droit de vivre 14 jours. Les prêtres, un mois. Les autres, 3 mois. »
À l'heure où les derniers survivants de la Shoah disparaissent, c'est vrai que c'était important pour vous de relayer ce témoignage.
Oui, c'était évidemment très important, parce que je crois qu'on a, quand même un devoir de mémoire là qui devient assez urgent. Oui. Et puis ensuite, on est en Europe, en tout cas, en train de basculer dans quelque chose de très trouble et de très inquiétant. Pas seulement en Pologne d'ailleurs, hein, mais on le voit en Hongrie avec le régime d'Orban. Et je crois qu'il faut vraiment travailler sur ces questions et s'y investir.
Pour représenter l'horreur du quotidien des détenus à Auschwitz, vous avez intégré au documentaire les dessins d'anciens déportés. Pourquoi ce choix ? Est-ce que ce regard subjectif, finalement, ça a plus de force que n'importe quel mot, n'importe quel commentaire ?
Oui, ça c'est un vrai parti pris de réalisation qu'on a eu avec Maya Naïs. On s'est dit que ces peintures, qui sont assez exceptionnelles, hein, en fait, hein, sont quand même des témoignages qui laissent passer énormément d'émotions. Toutes ces toiles ont été réalisées par d'anciens détenus. Et c'est une façon, en gros, de leur redonner aussi la parole.
Merci beaucoup, Ted Hanspar. Je rappelle que votre film documentaire Infiltré à Auschwitz, qui raconte l'histoire de Witold Pilecki, co-réalisé avec Maya Naïs Yatagen, est visible actuellement sur lcp.fr. Et il sera diffusé le 27 janvier prochain, jour de commémoration de la libération d'Auschwitz-Birkenau, à 20h30, toujours sur LCP. Et le rapport Pilecki, déporté volontaire à Auschwitz, 1940-1943, est disponible aux éditions Champvallon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Merci à vous deux.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque les grands infiltrés de l'histoire. Après Albert Londres et Witold Pilecki, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'une figure plus contemporaine de l'infiltration, plus drôle aussi, la youtubeuse, chanteuse et humoriste Marie s'infiltre.
Octobre 2019, c'est la Fashion Week à Paris. En plein défilé Chanel, une spectatrice se faufile, grimpe sur le podium et se met à se dandiner sur le catwalk. Si Karl Lagerfeld, disparu quelques mois plus tôt, avait été là, il se serait certainement exclamé
« Mais qu'est-ce que c'est que cette petite conne ? Mais virez-moi cette idiote Chanel !»
Cette idiote, cher Karl, c'est Marie Benoliel, alias Marie Saint-Filtre, qui aurait pu également se baptiser Marie Sans-Filtre. Ça marchait pareil, car cette comédienne et youtubeuse de 30 ans ose tout, c'est même à ça qu'on la reconnaît. Marie Saint-Filtre, pour vous la faire courte, c'est Jean-Yves Lafesse en version 2.0 ou, pour les plus jeunes, Rémi Gaillard qui aurait couché avec Guillaume Meurice. Marie adore s'inviter en mode caméra cachée dans toutes sortes d'événements pour titiller, provoquer et bien sûr amuser ses centaines de milliers d'abonnés sur YouTube. Car oui, David, elle en a 364K, soit 10 fois plus que vous. Et ce qu'elle fait,
c'est un truc de pute.
Non, c'est super, vous allez voir. Soyez
sur
pas
YouTube,
comme ça.
Non, pas 10 fois, 3 fois.
Non, mais vous allez voir que je plaisante, David, et que je vous titille de manière éhontée pour rien. Non, c'est drôle. Et contrairement à vous, qui tournez essentiellement vos vidéos en Suisse, elle n'a peur de rien. Demandez à des étudiants en grève s'ils ne souhaitent pas surtout éviter les examens. Demandez grimer en Emmanuel Macron pourquoi tant de haine à des gilets jaunes sur les Champs-Élysées, ou encore se rendre dans les Hauts-de-France et crier haut et fort au nez des passants.
Ah, le schnorr ! Avec son temps de rêve, ses consanguins, ses alcooliques, ses chômeurs, les pauvres, les cassos,
oui.
Les bouffes, quoi !
Oui, Marie ose ! Bordel à couilles est son insulte préférée. Elle vient pourtant, Stéphane, d'une bonne famille. Elle est née à Paris le 13 janvier 1991, ce qui nous permet, à quelques jours près, de lui souhaiter un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Marie ! Allez, David, faites un effort !
Bah, non. Non, je ne suis pas de cette confession-là.
Oh, c'est fou ce que la jalousie rend con. Bref, Marie est une adolescente normale. Au lycée, comme tout le monde, elle tombe amoureuse de son prof de philo, décide de faire des études littéraires. Elle fera Hippocagne-Cagne avant d'intégrer Sciences Po Paris, le parcours classique en somme, en tout cas pour moi. Mais voilà, Marie n'a rien de classique. Très vite, elle a envie de se jouer des cadres, des règles, des codes sociaux. Alors elle hésite, vu ses résultats, on la pousse à tenter l'ENA. Mais elle a de plus en plus envie de tout envoyer valser pour faire du théâtre. Du théâtre ? Tu n'y songes pas, Marie ! S'exclament ses parents, que j'imagine aller savoir pourquoi, assez cateau de gauche du 6e. C'est là qu'intervient Charlotte Rampling. Que vient foutre Charlotte Rampling dans cette histoire, me direz-vous ? Eh bien, c'est une amie de la famille Benoliel. Et Charlotte, elle sent bien que Marie n'est pas faite pour finir sous-préfète de Lyon. Plus tard, l'actrice racontera au sujet de Marie, elle a tout arrêté d'un coup, tout chamboulé. Je l'ai soutenue car j'ai admiré cette volonté de faire. J'ai senti une détermination extraordinaire. Elle provoque l'énervement de tout le monde. Et ni vous, ni moi, ni elle, peut-être, on ne sait jamais si elle joue. Oui, Stéphane, en fait, Marie est chiante, mais dans de telles proportions, avec un tel aplomb, que Charlotte Rampling a compris avant tout le monde qu'elle pouvait en faire un métier. Voilà donc Marie inscrite au cours Florent, et très vite, en parallèle, elle s'invente ce personnage de Marie s'infiltre et commence à tourner ses vidéos. Parmi ses cibles, le voile, la manif pour tous, les gilets jaunes ou encore les influenceurs à Dubaï, une de ses vidéos les plus cultes où elle se fait passer pour une fan auprès de vieilles stars de la télé-réalité devenues influenceuses à Dubaï.
Mais j'aime tout ce que vous faites tous, c'est incroyable. Mais j'aime tellement ton corps, combien ça coûte ? Continue comme ça, à nous enrichir intellectuellement parlant.
Elle marque les esprits aussi en s'infiltrant dans un meeting de Marine Le Pen. Au-delà des buzz et des bad buzz, ses vidéos ne vont pas s'en poser parfois des problèmes juridiques. Par exemple, lorsque, en s'infiltrant dans une gay pride déguisée en représentante de la manif pour tous, elle oublie de flouter les visages des participants qu'elle filme, les outant donc à leur insu. Lors de la marche contre les violences faites aux femmes, le collectif Nous Toutes n'appréciera pas non plus son humour quand elle se mettra à fouetter des hommes torse nu. Marie, elle, jubile. Qu'on m'aime ou qu'on me déteste, je réponds à un besoin de poil à gratter social et là-dessus, je dois dire que je ne suis pas mauvaise. Marie chante aussi.
Dans ton marais, je m'enlise, l'ivresse et qui la suce.
Son tube Nuit Parisienne cumule 52 000 vues sur YouTube, soit David, 3 022 000 vues de moins que je possède des thunes.
Je possède des
thunes. Mais oui,
je suis à l'aise financièrement. Ils sont à l'aise financièrement.
Et oui, j'ai fans. Il y a des fans. Ça, c'est le duo avec Stéphane.
Ah, mais oui, c'est de très bon.
Bilan, c'est qui le meilleur ? Eh bien, c'est David. Quoique, le roi de l'infiltration, toutes catégories confondues, s'il faut en désigner un, c'est peut-être quand même Stéphane lui-même sur sa nouvelle chaîne YouTube, Bernie s'infiltre.
Avec Magimix.
Avec Magimix, bien sûr. Stéphane s'amuse à piéger au téléphone d'honnêtes artisans, comme par exemple l'esthéticienne de Thiron Gardet.
Bonjour madame, j'aurais voulu prendre rendez-vous, s'il vous plaît, pour mes chiens. Une qui a 6 ans et une autre qui a 6 mois. Était qu'elle a poil dur. Il y en a deux, oui. Berne Stéphane.
Berne Stéphane, ça c'est votre meilleur canular.
Merci Mathieu, c'est super, c'est bien de pirater mes conversations téléphoniques.
Je suis là pour ça, ne me remerciez pas,
oui,
Stéphane.
Oui, je sais, c'est votre métier, c'est terrible.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour, ces grands infiltrés de l'histoire.
Et pour retrouver celui qui jusqu'à présent n'a réussi qu'à s'infiltrer dans une fromagerie de Livaro, au péril de sa vie, se remet de ses émotions, nous parlons aujourd'hui non pas du ouzou, Stéphane, comme vous le croyez, mais du yuzu, un fruit asiatique.
Oui, c'est ça, la grande Asie telle que vous la voyez.
Voilà. On ne sait pas où exactement. Le yuzu,
c'est là-bas, quoi.
Ouais. C'est là-bas, à l'Est. Et tout de suite, David Castello-Lopez remonte pour nous aux origines de ce qui a fait l'enfance d'Olivier Pouls. Un peu celle de Stéphane, peut-être, ah Goldorak.
Oui. Ouais. Contrairement à l'épingle à nourrice ou au badminton, je ne peux pas partir du principe que tous les auditeurs connaissent Goldorak. Non. Donc avant de vous parler des origines de Goldorak, je vais essayer d'expliquer ce que c'est. Goldorak, c'est donc une série animée que moi, comme vous l'avez dit, j'ai à peine connue dans mon enfance, mais qui a été effectivement pour la génération d'Olivier Pouls, qui précède la mienne, peut-être la série japonaise la plus culte de l'histoire. Non. Et c'est surtout la première série d'animation japonaise à avoir été importée en France. J'avoue que j'ai un tout petit peu peur de parler de Goldorak parce que, un, je connais assez mal la série, et deux, les fans de Goldorak, ils ont pour leur héros un attachement vraiment sacré, vous voyez, qui les amène à s'énerver très vite quand on n'est pas assez précis. Mais bon, je vais quand même essayer.
Je vous tiens à l'œil.
Voilà. Goldorak, franchement, on dirait le nom d'un bijoutier juif polonais des années 30. Mais non, non, c'est le nom d'un robot. Un robot qui a trois caractéristiques très intéressantes. Un, il est piloté de l'intérieur par un monsieur qui s'appelle Actarus. Deux, c'est un robot qui peut s'assembler à une machine volante pour devenir un vaisseau qui vole dans le ciel. Donc. Et trois, Goldorak possède un certain nombre d'armes très performantes qui lui permettent d'emporter facilement la décision sur le champ de bataille. Ces armes, elles ont des noms très cool qu'Olivier Pouls peut encore vous citer de mémoire.
Oui. Alors, planitron, rayon laser, cornofulgure, missile gamma.
Oh là là, c'est, ouais. Ah, c'est pas mal du tout.
Mégavolt.
Bon, je te vois en pyjama avec tes moutabis devant Goldorak.
Olivier ne les a pas toutes, mais il y en a 27 quand même, hein, mais certaines qui ne sont utilisées qu'une seule fois. Oui, il y a Astéro H. Vous avez oublié Météo Punch, qui est certes une variante de fulgure au point, mais qui
existe. Mais le point ne tourne pas, je crois qu'il est.
Exact. Il n'y a pas les griffes sur le côté.
Il n'était pas mis avec Fisto
Peut-être. Ouais. Il y a un Crusto Choc aussi, où Goldorak se sert de ses doigts pour s'incruster dans la chair de ses ennemis.
C'est autre chose, ça.
Voilà. Alors, comment on connaît le nom de toutes ces armes? Eh bien, parce qu'Actarus les dit à haute voix. Il dit « fulgure au point » et hop, le fulgure au point est activé. Un petit peu, si vous voulez, comme avec une enceinte connectée.
Oui, vous dites, Siri avant l'heure.
Exactement, ok Google. Actarus, c'est un humanoïde originaire d'une planète lointaine, planète qui était attaquée par un méchant. Ce méchant, il dirige un empire qui s'appelle Vega et dont les habitants, en anglais en tout cas, s'appellent les Vegans. Ce qui est quand même assez rigolo. Actarus, il se réfugie sur la Terre avec son super robot Goldorak, et la Terre, pendant les quelques dizaines d'épisodes que dure la série, n'arrête pas d'être attaquée par des méchants issus de l'Empire Vega, mais Actarus, grâce à Goldorak, arrive toujours à gagner. Mais alors, qui a inventé Goldorak?
Oui, c'est ça. Un génie.
Alors déjà, celui qui l'a inventé ne l'a pas appelé Goldorak, mais Gurendaiza. Voilà. Rien à voir avec Goldorak, à part le G. Mais les Français, ils ont décidé que Goldorak, c'était plus cool. Non, même pas. C'est Goldorak, c'est plus cool. Un peu comme ils ont décidé de façon unilatérale que Magellan, c'était plus cool que Magellan. Vous voyez, en portugais. Voilà. Le monsieur qui a inventé Gurendaiza, il s'appelait Go Nagai. La grande idée de Go Nagai, d'après ce que j'ai pu lire, c'est d'avoir inventé le truc du robot dirigé par un monsieur qui se trouve à l'intérieur du robot. C'est ça, sa grande idée. Et c'est avec cette idée qu'il est allé voir un des plus grands studios japonais d'animation qui s'appelle Toei. Toei, ils lui ont dit « c'est super, on veut tout de suite ». Et ils ont créé ensemble une première série qui s'appelait Mazinger Z, avec un robot géant qui est déjà une sorte de proto-Goldorak. Cette série, elle est sortie en 1972, elle a fait un carton de malade mandal au Japon. Et donc, naturellement, Go Nagai, il en a écrit une autre, puis une autre. Et c'est cette dernière, la troisième, qui s'appelle Gurendaiza, Goldorak. Au Japon, elle a été diffusée entre 1975 et 1977. Elle a eu du succès, mais peut-être pas tout à fait autant de succès que prévu, pour des raisons un petit peu pointues de spécialistes sur lesquels j'ai pas le temps de m'attarder. Mais à la fin des années 70, il y a un monsieur français qui s'appelait René Huchez qui est intervenu. René, il travaillait pour une entreprise japonaise d'import-export et il s'est dit que Goldorak, ça pouvait peut-être intéresser les chaînes françaises. Il a eu un petit moment à les convaincre, mais finalement, il avait raison. Il avait raison, sa race même, puisque le 3 juillet 1978, à 18h, Olivier Pouls avait 7 ans. Goldorak a été diffusé pour la première fois en France sur Antenne 2, dans Récréa 2. Et ça a été un succès immédiat. Goldorak, c'est resté depuis une série culte et c'est une série qui a une actualité aussi. Stéphane, vous avez parlé tout à l'heure des timbres Goldorak qui ont fait un carton de fou cette année. Et surtout, il y a une BD Goldorak qui est sortie au mois d'octobre et qui a été écrite par des Français avec l'autorisation de Gonagai. L'action se passe 10 ans après la fin de la série et à Skip, c'est super.
Voilà. Ça, c'est une critique.
Voilà, je ne l'ai pas lu.
Je crois que les produits dérivés qui se revendent encore aujourd'hui aux enchères ou dans les brocantes atteignent parfois des prix absolument stratosphériques.
Mais vous-même, vous devez avoir des chaussettes Goldorak.
Non,
ou des...
pas tellement. Non. Puis, non. De toute façon, mais plus on grandit depuis. Donc,
non, mais vous pourriez les vendre, je pour les mettre. Magnifique. L'histoire de Goldorak. À quand l'histoire de Dragon Ball Z vous lance
Ah, peut-être celle de Dragon. Moi, je suis plutôt Dragon Ball que Dragon Ball Z.
Oui, moi aussi, ça tombe bien.
Je suis l'époque
aussi.
Où il avait un petit pyjama bleu.
Petit, et il se transformait encore
exactement.
Quand il y avait la pleine lune. Il avait une
c'est
queue,
bien quand vous échangez vos souvenirs d'enfance. Merci David.
Stéphane.
Non, je ne me moque pas. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.
Et on peut retrouver Goldorak et les origines de tous les autres mangas, il y en a beaucoup, dans le dernier hors-série de Lire, le magazine littéraire qui décrypte le phénomène et vient tout juste de paraître en partenariat avec Europe 1.
Historiquement vôtre.
Le yuzu, la mode du yuzu a été très forte il y a quelques temps, Olivier Pouls. Que devient-il ?
Bah, il se porte bien, merci pour lui. Mais c'est vrai que si dans les années 70, les petits Français et Belges d'ailleurs ont découvert les dessins animés japonais, les cuisiniers français ont découvert le yuzu un peu plus tard. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très récent en fait. Que d'utiliser du yuzu
alors
dans notre cuisine. Alors qu'est-ce que c'est que le yuzu ? C'est un petit agrume dont la taille est environ 5, 6, 7 cm de diamètre. Il est généralement de couleur vert ou jaune suivant son niveau de maturité.
Comme le citron.
Et puis, en termes de goût, on peut dire que ça ressemble à une espèce de mixte entre de la mandarine, du citron et peut-être une pointe de pamplemousse. C'est très intense en termes de saveur. C'est un agrume qui a deux particularités. C'est qu'il a une peau assez épaisse. En général, il est non traité, donc c'est une peau qu'on peut vraiment utiliser. Il a très peu de jus. Le rapport poids-jus est totalement défavorable. Ah. Donc, du jus de yuzu, on n'en trouve pratiquement pas. Parce que quand on presse du yuzu, il n'y a pas grand-chose, contrairement à une orange, par exemple, ou même à un citron. Et puis, il a beaucoup de pépins. Mais en cuisine, il est très intéressant parce qu'il a énormément de saveur. Il y a une intensité de saveur. Vous mettez à peine de yuzu dans une recette et c'est incroyable comme ça explose. Alors, d'où vient ce fameux yuzu que nous avons découvert ici en France, je l'ai dit, quand les premiers chefs japonais ont commencé à s'intéresser vraiment à la cuisine japonaise, ont fait ces voyages et sont revenus avec.
Les chefs japonais s'intéressant à la cuisine japonaise, ils en ont
eu deux. Les chefs français qui sont venus, et puis aussi des chefs japonais qui sont venus en France et qui ont apporté ça avec eux, c'est plutôt dans les années 2000. Et d'ailleurs, ce n'est qu'en 2017 que le nom yuzu fait son apparition dans le dictionnaire, dans le Petit Larousse. Donc c'est vraiment quelque chose de très récent. Il faut savoir que ce fruit, il est connu au Japon depuis des centaines d'années. Alors il est originaire à l'état naturel du Tibet, mais il a été importé au Japon durant la dynastie des Tang, c'est-à-dire entre le 9e et le 10e siècle. Et les Japonais se sont vraiment passionnés par la culture de cet agrume. C'est eux qui en ont fait un emblème de leur gastronomie. Alors tout d'abord, souvent, évidemment c'est le cas pour des raisons médicales, parce que le yuzu est extrêmement bon pour la santé, il est plein de vitamines, c'est très 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 bon pour la santé.
Oubliez le kiwi, Stéphane.
Vous pouvez faire des cures de yuzu aussi, c'est très bon. Et puis évidemment, ils ont découvert ses vertus culinaires. Il faut savoir que le yuzu, c'est le nom du fruit, mais c'est aussi le nom de l'arbre. Et c'est un arbre qui pousse de manière assez confortable. Il peut atteindre 4 mètres de hauteur. Le petit inconvénient, c'est qu'il faut attendre 20 ans avant que
qu'il
l'arbre commence à donner des fruits.
C'est extrêmement cher, alors.
Alors c'est cher parce que, d'abord, ça vient du Japon, que même s'ils en cultivent là-bas, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, oui, c'est relativement cher, mais en fait, il en faut très peu pour parfumer un plat. Et moi, je vais vous proposer de faire une tarte au yuzu.
Le yuzu
Il s'utilise en salé comme en sucré. Je fais d'abord une petite parenthèse, mais en salé, en ce moment, vous avez les coquilles Saint-Jacques, carpaccio de coquilles Saint-Jacques.
Ah oui, c'est bon ça, oui.
Un tout petit filet de yuzu et vous râpez très finement un peu de zeste. C'est absolument incroyable.
Mais un
c'est
filet, donc du coup, on met quand même un petit peu de jus de yuzu.
Oui, on met quelques gouttes avec un peu d'huile d'olive. Vous pouvez aussi faire infuser vos zestes de yuzu dans de l'huile, en la chauffant légèrement, vous aurez une huile au yuzu, c'est fantastique. Et puis une petite tarte facile à faire, hein, une pâte sablée que vous avez piquée et pré-cuite. Et vous faites un appareil avec 150 g de beurre, 2 œufs, et au four 4 petits yuzu, 120 g de sucre et un petit peu d'agar-agar pour faire prendre le tout. On mélange les œufs, le sucre et le jus de yuzu, on zeste et on râpe le zeste dedans. On va faire prendre cette préparation tout doucement à feu doux, un peu comme un sabayon, plutôt bain-marie pour ne pas risquer de brûler. On rajoute le beurre, on rajoute un petit peu d'agar-agar. Voilà, on tourne dans ce sens-là ou dans l'autre, comme on veut. On coule la préparation dans la pâte sablée, on laisse prendre au frigo, et on peut encore re-râper un petit peu de zeste par-dessus au dernier moment. Et on a une tarte au yuzu absolument incroyable et pleine de saveurs.
Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.
Et pour terminer, alors le yuzu c'est doux amer, là ça va être très amer, beaucoup plus
plutôt,
que doux.
Plutôt oui, surtout pour
ça va
moi.
Être la lutte finale pour savoir qui est le plus nul en histoire.
Europe 1, historiquement vôtre.
Bon, vous connaissez tous le principe. Mathieu, Albert Camus nous a quittés en 1960 dans un accident de voiture.
Oui.
On a retrouvé dans son manteau un billet d'avion qu'il devait prendre pour rentrer de vacances. Mais finalement, il avait choisi la voiture. C'est vrai ou c'est faux ?
Alors, je vais répondre oui, mais si jamais c'est un billet de train, Stéphane, oui. Je ne peux pas répondre de ce que je vous ferai subir physiquement.
Non, non,
si
alors réfléchissez bien avant de répondre.
Alors, c'est faux.
Je vous l'avais aidé.
Là, c'est cadeau.
Mais là, c'est un cadeau. J'ai pas envie qu'il me fasse mal.
Alors, réfléchissez bien.
Évidemment que c'était un billet de train.
C'était un billet de train ?
Oui.
Non, c'est vrai ?
Bah oui, lourd.
Ah bah non, j'ai dîné, alors c'est bon. Non, là, je n'ai pas volé.
Là, il n'a pas volé. Il n'a pas volé.
Non, non, je vais dire oui, mais si c'est le cas, je vous casserai la gueule.
Bah oui, mais j'ai pas envie. Non, il y a un moment, j'ai envie d'avoir la mission.
Stéphane, si j'ai une mauvaise réponse, je vous casse la figure en sortant du studio.
Si vous êtes aussi subtil que Mathieu Noël, c'est-à-dire si c'est ça...
J'ai fait du karaté, attention.
Non, mais il a dit billet de train.
Moi, je suis ceinture verte de judo.
Moi, j'ai trouvé la bonne réponse.
Il a trouvé la bonne réponse, donc. Voilà,
okay.
David, le vrai prénom d'Albert Camus, c'était Lucien. Vrai ou faux ?
Faux.
Oui, c'est son père qui était Lucien.
Ouais.
Lui s'appelait vraiment Albert.
Ouais.
Et une citation d'Albert Camus pour vous, Olivier Pouls. Ouais. Je tire de l'absurde trois conséquences. Ma révolte, ma liberté, ma passion. À ses amis, il disait que la mort la plus absurde était l'accident de la route. Quand il est mort, il avait sur lui un roman qu'il avait écrit sans avoir eu le temps de l'achever. Vrai ou faux ?
Il avait des trucs sur lui ce jour-là.
Ouais, il avait une valise entière.
Et le billet de train était glissé dedans.
Bah, non, je dis que c'est faux.
Le premier homme.
Le premier homme.
Mais il l'avait sur lui.
Ah bah, oui.
Il aurait pu l'avoir à son bureau.
Et c'est sa fille qui l'a publié en 1980.
Il aurait pu l'avoir à son bureau.
Non, non, il l'avait avec lui. Vous savez, quand vous voyagez.
En PDF sur une USB. Ouais. Ouais.
Alors, j'aime bien quand on tombe sur les tout petits morceaux de culture que j'ai. Je peux faire, on imagine que.
Que vous en avez une énorme culture. Voilà,
alors qu'en fait, c'est depuis
juste le sommet d'iceberg. Moi aussi, je fais
quand on voit ce que vous avez parfois en vitrine, on se dit que dans le stock.
Ça doit y aller.
Alors, la question qui départage Mathieu Noël et David Cassello-Lopez. Je le rappelle, c'est la réponse la plus proche qui remporte la lutte finale. Maintenant que l'on sait que le premier homme fut retrouvé sur Albert Camus lors de son accident fatal.
Il le sait, il connaît tout d'Albert Camus.
Voici ma question. Il y avait combien de pages du manuscrit sur lui ?
Attendez, le manuscrit n'était pas terminé ?
Ben non.
Non, mais est-ce qu'il était complet ? Est-ce que tout ce qu'il avait terminé était sur lui ?
Oui.
Combien de pages du livre il avait sur lui.
Bah c'est dommage, parce que moi je sais combien il y a de pages dans le premier homme, mais... Bah je vais pas le dire maintenant si... je vais mettre ça, alors du coup je mets ça ou
bah,
vous pensez que c'est loin
du compte ? Il n'y avait pas tout.
Il n'y avait pas tout.
Il y a combien de pages ? Mais c'est... Il y a de quoi faire déjà. Vous répondez combien ? David ?
132.
132.
Moi je réponds 496.
Bravo David.
Il y en avait 3 ?
Non, 144.
Oh non ! Mais pourquoi 130. Vous dites qu'il y avait encore de quoi faire ? Pourquoi vous dites
qu'il y avait déjà de quoi faire ?
Il y avait déjà n'importe quoi, vous avez donné la victoire à David.
Et alors, combien fait le roman ?
522 pages. 522 pages au final. Nouveau numéro d'Historiquement
Vôtre
s'achève, même s'il n'avait pas
dire.
La bonne réponse. Sait-on déjà l'heure où on parle ? La thématique qui nous attend demain. Je crois que c'est un sujet qui tient la corde.
Oh, vous ne croyez pas ce qu'il vient de dire ? Demain, ils tiennent la corde. C'est notre thème. Et la corde, c'est le point commun de nos trois personnages. Édouard Alfred Martel, le premier spéléologue qu'il a tenu pour descendre profond, mais alors très profond. Puis Dennis Rader, un tueur en série qu'il a utilisé pour ligoter et étrangler ses victimes.
Oui, et moi je vous parlerai, je vais vous dire de qui je voulais pas, mais je crois que David veut nous dire quelque chose.
Oui, oui, on a vérifié entre-temps, le premier homme ne fait pas 522 pages, mais 332 pages.
C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez réécouter l'émission et vous verrez que j'avais donné la bonne réponse. Joe Simpson et Simon Yates, c'est mes personnages de demain, deux amis alpinistes qui ne le sont plus aujourd'hui. Amis, hein, je veux dire, la corde de la discorde, pourrait-on dire. Je vous raconte leur folle histoire demain.
Oh, ça, c'est un programme que je qualifierais d'affriolant.
Oui, si nous étions sûrs que seules des personnes de plus de 70 ans nous écoutent. Allez, à demain Stéphane, à demain les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.